Toute gratuité procède de Dieu et on pourrait dire qu'elle retourne à lui, qu'elle fait retourner vers lui. C'est très beau ce thème de la gratuité, c'est surtout pour un consacré. La gratuité, c'est vraiment le climat que l'Église nous propose de respirer, de faire respirer eh bien, tous ceux qui viennent dans les monastères, dans les communautés religieuses ou qui entendent des prédicateurs. Et la gratuité. Donc, on pense d'abord et avant tout, donc elle procède de Dieu, elle est vraiment un attribut de Dieu, la gratuité. C'est quelque chose qui nous est très étranger en réalité sur la terre. Il faut la recevoir, il faut vraiment l'accueillir comme quelque chose de divin en tant que tel. Pensons au mystère de la vie, le beau mystère de la vie, de la création. Eh bien, les scientifiques eux-mêmes affirment que dans le cosmos, l'apparition de la vie est la plus haute improbabilité qui soit. C'est pas impossible, puisque effectivement nous sommes des vivants, nous voyons bien que c'est possible. Mais en même temps, c'était le degré de probabilité est extraordinairement mince. Dans le cosmos, il y a beaucoup de cailloux qui sont ou bien embrasés ou bien complètement réfrigérés. Mais il y a les conditions de la vie, c'est pas si facile que ça à obtenir. Et alors ça, c'est uniquement au niveau physique, au niveau matériel, mais déjà ça nous dit quelque chose, parce que le cosmos est le grand jardin que Dieu a disposé autour de nous. Il nous a placés vraiment en son milieu, et pour contempler un peu d'une manière analogique ce qu'il veut faire, ce qu'il est lui-même et ce que nous sommes, eh bien nous voyons qu'il y a déjà dans la vie quelque chose de gratuit. Il y a vraiment d'improbable, on va dire, physiquement, au niveau biologique, au niveau matériel. Mais il est la vie, c'est vraiment la première expression, la plus tangible, la plus immédiate de la gratuité de Dieu et du don libre qui procède de cette gratuité de Dieu. Ensuite, on verra, je vous propose de considérer les vocations. Les vocations aussi, elles sont vraiment dans l'ordre de la gratuité. C'est la vocation aussi au salut d'abord et avant tout, ouais, celle-là. Et puis ensuite la vocation de participer dans le monde à la diffusion de la bonne nouvelle. Ça aussi c'est complètement gratuit, c'est pas une obligation, vous voyez. Dieu n'oblige pas ses fidèles à devenir des prédicateurs, à faire des œuvres tangibles. C'est toujours l'objet d'un choix, d'une liberté. Et puis, la gratuité finale, c'est celle de la vie éternelle vers laquelle nous nous dirigeons. Ben voilà un peu la perspective que je vous propose de regarder au long de cet enseignement. La gratuité, d'abord, contemplons-la d'un point de vue, dirais-je, théologique. Voyez, dans l'ordre de la création, Dieu a créé les anges, les hommes, et tout le monde matériel, bien sûr, pour nous accueillir, nous, les créatures humaines. On peut dire que la création en général n'ajoute rien à ce qu'est Dieu. Dieu n'a, il n'y a aucune nécessité en Dieu, dans l'ordre de l'être, d'avoir de faire une création, de produire une création et d'engendrer des créatures avec lesquelles il va bien sûr essayer d'entrer en relation, entrer même en relation, même si elle est conflictuelle parfois, cette relation. Il n'y a pas de nécessité de la part de Dieu. Dieu, on dit en théologie, et on fait bien, il est celui qui trouve en lui-même son bonheur, sa béatitude, c'est le terme qu'on emploie, et vraiment qui goûte le parfait bonheur en se contemplant lui-même. Lorsqu'on projette ça au niveau psychologique, à nous qui sommes des hommes, l'auto-contemplation, c'est vraiment quelque chose de redoutable. C'est le narcissisme avec toute la décomposition que ça produit. Eh bien, en Dieu, il n'y a pas de psychologie de cet ordre-là. Lui, Dieu peut s'auto-contempler, il peut s'aimer. Et c'est en s'aimant qu'il trouve la béatitude, c'est en se contemplant qu'il se connaît et qu'il connaît eh bien, qu'il est la vérité, quoi, qui est totale, qu'il connaît tout. Et en lui-même, c'est vraiment totalement réflexe. Donc il n'y a aucune nécessité, vous voyez, c'est Dieu nous est complètement étranger. Nous ne fonctionnons absolument pas comme ça. Nous sommes des créatures dépendantes, nous avons besoin les uns des autres et d'abord du Seigneur lui-même, bien sûr. Or Dieu, ce n'est pas le cas. Donc, par définition, toute création, que ce soit les anges, que ce soit les hommes, procède d'une gratuité, parce qu'il n'y a pas de nécessité. Donc à partir de là, déjà, tout ce qui va suivre l'ordre de la création, tout ce qui va découler de l'acte de création initial de Dieu, le combat spirituel, la liberté humaine, etc., tout ça découle de la gratuité. Tout est vraiment dans ce milieu vital, on pourrait dire, qu'est l'acte créateur divin, un acte complètement gratuit. Donc il n'y a pas de surcroît d'être dans la création, et il n'y a pas non plus, vous voyez, ça c'est ce que croyaient, c'est ce que les philosophes modernes, comme Hegel par exemple, ont pu affirmer, à la suite d'ailleurs des antiques, hein, c'est-à-dire que le monde serait une émanation en quelque sorte de Dieu. Vous voyez, donc là, pour prendre non pas la métempsychose antique, mais celle vraiment qui nous est très contemporaine, celle qui gouverne encore nos sociétés, eh bien, pour Hegel, vous voyez, c'était un luthérien, Hegel, c'était un pasteur à l'origine, et puis il a abandonné son pastorat pour se dédier à la noblesse de la philosophie. Et il a conçu toute une philosophie de l'histoire. Et alors, vous voyez, selon lui, Dieu a besoin, vous voyez, il rompt la gratuité. Dieu a besoin pour se manifester, s'auto-manifester, certes, mais de la création. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'homme va être en fait une manipulation, va être manipulée par Dieu pour que l'esprit de Dieu, il l'appelle l'esprit absolu, lui, eh bien, entraîne l'humanité pour la déifier, c'est vrai, mais en même temps pour permettre à Dieu d'être, en fait. Vous voyez, il y a cette... Il absorbe Dieu, ou il voudrait absorber Dieu, et vraiment l'enfermer dans l'immanent, dans l'histoire, dans le monde matériel, dans le monde humain. Ce serait l'humanité qui, à travers son progrès, un prétendu progrès, eh bien, tendrait jusqu'à la fin du monde, où ce serait alors là, pas par pas, étape par étape, vous voyez, tendrait à quoi? Eh bien, à la manifestation pleine et entière de Dieu, en fait, à travers l'homme. Il ne ferait qu'une seule et même chose. Et le Christ, avec son incarnation, eh bien, préfigurait, établissait en quelque sorte ce programme, vous voyez, de l'auto-manifestation de Dieu dans l'humanité, dans l'immanence, on va dire. Eh bien ça, il n'en est pas question parce que ça rompt complètement la gratuité. Il n'y a aucune forme de nécessité pour Dieu de se manifester, de s'imposer, de triompher dans le monde. Il n'a pas besoin. Et ça, vraiment, dans un monde qui est très immanent comme le nôtre, eh bien, c'est quand même une bonne chose à rappeler. La gratuité, c'est vraiment quelque chose qui, dans la société contemporaine, la société libérale, c'est quelque chose qui est vraiment très étranger. Nous devons donc vraiment cultiver au maximum cette grande vertu. C'est aussi, donc là j'ai parlé en termes théologiques jusqu'à présent, maintenant c'est d'abord aussi la gratuité, c'est la manifestation du mystère même de l'amour. Ça c'est quelque chose de magnifique. Entrer en relation d'amour avec Dieu, c'est entrer forcément dans la gratuité de Dieu, dans son parce que en fin de compte, Dieu n'établit pas entre lui et nous, eh bien le même type d'amour. Nous autres sur la terre, c'est l'amour éros et d'autres d'ailleurs, mais parental, l'amour d'amitié, mais il y a toujours un donnant-donnant, tandis qu'en Dieu, c'est l'amour d'agapé, et c'est celui-là qui n'est pas humain en fait. C'est un amour inhumain, mais un amour qui comble au-delà justement de l'humain. Mais je reprendrai ça tout à l'heure. Voyons dans un premier plan maintenant, de manière un peu plus précise, ce thème de la gratuité. Alors, je propose de le voir à travers le Nouveau Testament. C'est-à-dire, il apparaît à travers un adverbe. L'adverbe c'est doréan qui signifie, alors selon les contextes, on le traduit tantôt par gratuitement, on peut le traduire par don, on peut le traduire par sans raison, sans cause, sans mérite. Vous voyez, tout ça, ça se rapporte au thème de la gratuité. C'est le même mot. Et alors, quand on regarde les contextes dans lesquels ce terme apparaît, eh bien, on fait notre petite enquête. La petite enquête, elle commence par d'abord le thème du don gratuit de Dieu. C'est Saint Jean qui nous rapporte cette expression. Elle est du Christ dans le dialogue avec la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Le contexte, c'est une discussion religieuse très âpre entre la Samaritaine et ce Juif qu'elle pense être devant lui. Mais Jésus est bien plus qu'un simple représentant du judaïsme du premier siècle de notre ère, mais elle va le découvrir justement, la Samaritaine. On est dans le contexte un contexte très passionné. La Samaritaine, c'est quelqu'un qui vraiment, Samarie, bon, les Samaritains, c'est des cousins germains des Juifs au niveau religieux. Ils partagent avec eux, eh bien, le Pentateuque. Donc vous voyez, les cinq premiers livres de la Bible, les livres de Moïse, les livres de la loi, et ils attendent eux aussi un Messie, le Taève, c'est comme ça qu'ils l'appellent, celui qui révèle la vérité. Voilà le contexte. Ça, c'est la femme, la Samaritaine, à laquelle Jésus demande à boire. Et toute la conversation commence là, justement, et rebondit à propos de cette question. Elle entre vraiment dans un discours interreligieux. Elle entraîne le Christ sur ce chemin-là en lui demandant, ben oui, mais qu'est-ce qui fonde finalement la différence entre vous, juifs, et le culte à Jérusalem que vous avez instauré, et puis le nôtre, nous, samaritains, et le culte sur le mont Garizim. Il y avait un temple aussi là, dédié à Dieu. Vous voyez, donc il y a des guerres interreligieuses là, en œcuménisme, c'est très intéressant de reprendre ce texte. Donc, Jésus lui propose un dépassement. Et il est fondé sur quoi ce dépassement? Il est fondé sur le don, c'est-à-dire sur la gratuité. Ce qui échappe à la Samaritaine, justement parce qu'elle est dans une logique trop humaine, de même qu'aux Juifs qu'elle interpelle à travers Jésus, eh bien c'est justement ce thème de la gratuité qui permet lui seul le dépassement. Elle vient l'heure, dit Jésus, eh bien où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem, mais vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est les deux grands thèmes qui sont liés à la gratuité, c'est-à-dire au thème du dépassement à travers la gratuité. La gratuité, c'est un tremplin magnifique pour nous faire passer du plan humain au plan divin. Oui, il y a, pour passer vraiment, pour recevoir le don de Dieu, pour entrer donc dans la gratuité, don, ça vient de, c'est doréan, hein, le don, c'est ce qui est gratuit, c'est ce qu'on reçoit gratuitement. Eh bien, ce don, cette gratuité que je vais recevoir de Dieu, que la Samaritaine doit apprendre à recevoir, c'est en se dégageant, eh bien du contraire de ce qui n'est pas encore la gratuité, c'est-à-dire du pouvoir. Du pouvoir pour établir qui va avoir la primauté entre les deux religions cousines germaines, en quelque sorte. Donc voilà que la gratuité devient beaucoup une belle ligne d'horizon, une direction, mais aussi un pivot concret pour dépasser les impasses du raisonnement, les impasses de la relation entre les hommes fondée autour du religieux. Il faut la gratuité. On dirait, en termes, je dirais, plus modernes, eh bien, il ne faut pas se crisper trop sur les commandements, comme faisaient les pharisiens. Ce qu'il faut faire, c'est entrer dans le mystère de Dieu. Lorsque, quelle que soit notre religion, on entre dans le mystère de Dieu, en relation avec Dieu, en quête de Dieu, eh bien là, on a beaucoup plus de chances de s'entendre que lorsque on se dévisage à partir des différences, à partir des traditions religieuses elles-mêmes, sans avoir cet idéal qu'est Dieu lui-même. Et ça, c'est la gratuité. La gratuité, c'est vraiment un attribut divin, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose qui nous oblige vraiment à entrer dans un ailleurs, une étrangeté qui nous permet de nous dépasser, qui nous permet d'entrer dans un royaume qui est celui de la paix. Le royaume des cieux, c'est le royaume de l'Eirene, de la paix. Donc, ça, c'est le don de Dieu. Oui, le don de Dieu, c'est quelque chose qui va permettre à notre vie d'être transcendée. Tous nos contemporains continuent aujourd'hui encore de courir après des recettes, après des objets, après des enseignements, des vérités qui leur permettent ou leur permettraient de se dépasser, d'être transcendés, de pas en rester aux limitations de la condition humaine telle qu'elle se présente à nous sur cette terre. Et tout le principe, justement, c'est d'entrer dans une autre logique que celle que le monde propose, que celle que le monde de l'immanence, s'entend, le monde clos sur lui-même, propose. Le monde, fondamentalement, il est immanent, comme notre nature, comme notre psychologie, comme notre corps, d'ailleurs. Immanent, ça veut dire qui fonctionne autour de lui-même, à partir de lui-même et pour lui-même. Voilà, un monde clos qui n'est pas ouvert à Dieu, qui n'est pas ouvert à la transcendance, c'est le monde de l'immanence. On comprend tout, on vit tout, et tout le travail est offert, toute la production, eh bien, tourne toujours pour le monde lui-même. Et le monde, en tournant sur lui-même, ne peut pas se dépasser. Il a besoin de Dieu. Alors le monde l'a pris dans un contexte très très large qui englobe les êtres, évidemment, qui y vivent. Le don de Dieu, c'est cette capacité de dépassement avant tout. Avant même d'être le salut, vous voyez, au sens effectif, au sens réel, accompli, c'est sa possibilité. Le don de Dieu, c'est ça. C'est justement de créer une fracture, un espace, là, d'un seul coup, une brèche, dans ce qui paraît complètement clos, complètement fermé. Et ce que Jésus utilise pour faire une brèche dans le raisonnement de la Samaritaine, c'est vraiment une femme croyante très engagée dans sa religion, eh bien, c'est pour la faire vaciller un peu de ses certitudes et de son enthousiasme un petit peu trop grand quand même, eh bien, c'est ça, c'est la perspective d'un dépassement. Ta religion ne t'a pas encore permis de réaliser ce dépassement que ton cœur désire tant. Et c'est ça le don de Dieu. Et l'annonce du don de Dieu produit cette brèche chez la Samaritaine. Et alors, le dialogue peut aller plus loin à partir de là. Elle lui parle du Messie à ce moment-là, et hop, Jésus en arrive à se révéler lui-même comme étant ce Messie, comme étant celui qui révèle la vérité tout entière. Ça, c'est pour le don de Dieu. Le même mot, Doran, se retrouve aussi, alors pour illustrer un autre thème, c'est l'annonce gratuite du royaume de Dieu. C'est une phrase de Matthieu. Guérissez les malades, dit Jésus, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est la condition, alors là, c'est plus le don de Dieu qui nous sauve, qui d'un seul coup nous fait entrer dans une perspective plus grande, celle du royaume de Dieu, et alors qu'on était prisonnier des perspectives uniquement terrestres et matérielles, servir la cité terrestre, quoi, comme en Égypte. Là, d'un seul coup, là maintenant, on connaît cette perspective, on l'a reçue, c'est le don de Dieu, on accepte d'entrer dans son annonce, mais il faut rentrer dans les conditions mêmes de son annonce. Dans l'essence de cette annonce. Et l'essence même de cette annonce, du don, c'est-à-dire de ce qui est gratuit, l'essence, eh bien, c'est justement de tout faire dans le même esprit de gratuité. C'est très beau et on se rend compte tout de suite, les apôtres, donc, ont été appelés à donner gratuitement, à prêcher gratuitement, au niveau de leur motivation, bien sûr, initiale, c'était pas pour eux, c'était pour le Seigneur. Ensuite, pour les résultats. Jésus dit, il est très libre, hein, il dit à ses apôtres, écoutez, vous allez aller dans les villes, vous allez prêcher. Mais si ça ne marche pas, vous ne tapez pas la tête contre les murs, vous pouvez continuer à vous présenter devant moi, si vraiment vous avez fait l'annonce telle que je vous demande de le faire, exactement dans les termes de Matthieu, là, ce que je viens de lire, eh bien à ce moment-là, si on ne vous écoute pas, bah vous prenez vos sandales, vous les secouez, vous secouez la poussière qui colle encore à la semelle. Et vous leur dites, bah écoutez, le royaume des cieux est proche, réfléchissez, hein, nous on va ailleurs. C'est pas du mépris, c'est le respect de la liberté humaine. Et en même temps, pour les apôtres, eh bien, c'est le gage d'une très très grande liberté. C'est exactement ce que la Vierge Marie a dit à Bernadette à Lourdes, enfin ce que Bernadette a dit au curé de Lourdes en lui rapportant le message de la Vierge. La dame qui apparaissait à la grotte voulait qu'on lui construise une chapelle. Le curé, lui, n'était pas mûr encore pour recevoir l'annonce immédiatement. Et Bernadette lui a répondu tranquillement, eh bien l'équivalent de ce que je viens de vous dire avec les sandales. Elle lui a dit, mais moi je suis chargé de vous le dire, je ne suis pas chargé de vous le faire croire. Maintenant, ça c'est votre affaire, vous êtes libre. On est complètement dans le contexte de la gratuité. La gratuité, c'est quelque chose qui enlève le scrupule inutile. Lorsque vraiment on fait par amour pour le Seigneur une annonce, lorsque vraiment on s'est disposé à la faire, on a une vie qui est conforme à cette annonce, on a l'annonce aussi requiert de prendre une forme, de travailler un peu la communication en quelque sorte, ça aussi ça compte, mais c'est pas le tout de l'annonce. Le tout de l'annonce, c'est de rester dans cette gratuité. Puisqu'on annonce quelque chose de gratuit qui est le royaume des cieux, il est absurde et impensable et totalement contradictoire de ne pas entrer dans cette même gratuité. Ça fait toujours peur la gratuité parce que ça semble toujours utopique. On se dit, mais si l'Église ne planifie pas, si l'Église n'envoie pas ses prédicateurs à des cours de communication, si à des cours de formation psychologique, sociologique, pour qu'ils connaissent les gens auxquels ils vont parler, en plus de la culture. Enfin, ça fait vraiment des types qui ont vraiment fait des études et qui ont de la formation, hein, quand on regarde les programmes idéaux. Eh bien, ça fait peur, la gratuité, devant tout ça. Non, nous, on aime planifier sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier. Il faut se disposer. La planification, c'est se disposer, c'est mettre au service de cette gratuité évangélique, eh bien, ce que nous sommes, nos qualités. Mais il ne faut pas que cette prédisposition prenne le pas sur la gratuité, sur l'annonce elle-même qui doit être faite dans cet ordre-là. L'annonce de l'évangile, c'est un débordement du cœur. Ça devrait être conçu comme ça. On devrait annoncer une chose qui nous émerveille. C'est notre amour pour Dieu, c'est le salut qu'il opère. C'est la transfiguration du monde. Le monde est trop triste sans lui. Ça, c'est quand même... Tous les chrétiens savent ça, tous les chrétiens qui ont vraiment la foi. Le monde est trop triste sans Dieu, même s'il il a ses beautés, même s'il a ses charmes, c'est pas assez. Quand on a goûté à quelque chose de céleste, c'est-à-dire à la gratuité, par exemple, eh bien, on ne peut plus accepter, se contenter du donnant-donnant dans l'ordre des sentiments, du donnant-donnant dans l'ordre des relations, de la planification, etc. Il faut aller plus loin, on a besoin d'autre chose, d'un autre air. Et cette air, justement, eh bien, c'est Doran, c'est gratuit. C'est comme ça qu'il faut c'est ce dont nous avons besoin. Et donc, c'est vraiment la motivation de l'annonce qui doit être complètement teintée par la gratuité. Donc, ça rend très fort en réalité. On va s'adresser à des êtres libres, on ne va pas utiliser des techniques d'endoctrinement pour de masse. Non, on va même pas utiliser la séduction pour la séduction. Le royaume des cieux, Jésus, est tellement beau en lui-même, on n'a pas besoin d'ajouter des arguments humains de séduction. Du type l'apologétique ancienne, vous savez, devenez chrétien, vous réussirez dans la vie. Il n'y a pas besoin même d'ajouter ça. Le royaume des cieux est tellement plus beau et puissant et mystérieux et attractif en lui-même qu'il n'a pas besoin qu'on y ajoute ces petites marques de séduction. Voyez comme je suis heureux, etc. Hein, ça ne vous fait pas envie hein? Non, ça ne me fera pas envie, moi. Moi, ce qui me fait envie, c'est quand vraiment... C'est moi qui suis heureux, c'est moi qui expérimente quelque chose de l'air qu'on respire dans le royaume des cieux. Tant mieux pour toi, si c'est ton cas, mais... Donc, pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Jésus a le don de rendre simples les choses qui doivent l'être. Il ne faut rien compliquer. Il nous rend libres, y compris ses apôtres. Hein. Il ne les accable pas de scrupules, de menaces. Il n'y a pas d'épée de Damoclès sur la tête des apôtres si leur prédication ne fonctionne pas. Ce que Jésus attend d'eux, c'est un cœur droit, c'est une intelligence ouverte, un cœur enthousiaste. Voilà ce qu'il veut. Ensuite, on a la gratuité dans l'ordre de la justification, dans l'ordre du salut. Le salut, ce qui nous justifie, ce qui nous rachète, eh bien, provient d'une pure gratuité. Il n'y a aucun mérite de notre part. Et quand bien même, l'ayant reçu, nous produisons de bonnes œuvres, comme les saints, les plus grands d'entre eux, prenons, eh bien, ça ne suffirait pas pour justifier la gratuité, pour justifier que Jésus soit mort sur une croix pour nous sauver. Rien ne peut mériter ça. Vraiment, la passion nous montre d'une manière ultime et définitive, eh bien, que tout le salut est une pure gratuité de la part de Dieu. On pourra ajouter, faire des montagnes d'œuvres à offrir au Seigneur, il en sera content, mais ça ne changera pas la nature même de la gratuité du salut, du non-mérite. Pour mériter, il aurait fallu, eh bien, être un petit peu comme Marie, en quelque sorte, en amont du don de la justification. Et même elle ne peut pas, puisqu'elle en bénéficie selon le dogme même de l'Immaculée Conception. Alors, Adam et Ève, bah oui, il aurait fallu pour mériter cela, bah, ne pas chuter. Donc, vous voyez, c'est le cercle vicieux. La gratuité de la justification, là, je voudrais vous lire un extrait de l'Épître aux Romains pour l'illustrer. Voilà ce que dit saint Paul. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce, Doran, par la Doran de sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. C'est... Les hommes, souvent, on le remarque, hein, même chez nos contemporains, on est presque obligé de venir les supplier pour entendre quelque chose du message religieux, pour entendre quelque chose qui parle du péché et de la manière de nettoyer cette tâche originelle qui est malheureusement aussi actuelle dans les péchés que chacun peut accomplir. Le mal, mais surtout le péché, donc cette relation au mal, hein, cette implication avec le mal de chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui est très difficile à tenir aux oreilles de nos contemporains. Les hommes de ce temps, alors les croyants, mais c'est surtout des incroyants, ont énormément de difficultés à entendre ça. Donc le salut pour eux, c'est agréable à entendre tant que ça reste dans l'ordre de l'immanence. Le salut qui va pouvoir nous aider psychologiquement, donc quand on est malade, vous voyez, dans la prédication du royaume, il y avait guérissez les malades, chasser les démons, donc les états, par exemple, qui sont des états de vie qui sont intenables, des preuves incompréhensibles. Mais tant que ça, c'est immanent, comme tant que c'est quelque chose que la science ne peut pas encore guérir elle-même, si ça vient du religieux, tant mieux, on l'accepte. Mais parler vraiment du péché, de notre complicité avec le mal, donc du salut, mais en sens négatif, de la nécessité du salut pour nous, eh bien c'est quelque chose de douloureux. Et alors, quand on en vient à parler de la gratuité du salut, c'est-à-dire du non-mérite, alors là on dépasse complètement, je dirais, les limites de l'acceptable. Là vraiment, on dépasse toutes les bornes. Parce que là, vraiment, les personnes ont encore plus de mal à imaginer, eh bien, qu'elles ne soient pas le centre du monde. À imaginer que, après tout, bon, ben, elles ont un peu glissé, mais que quand même, le salut leur est un dû. L'aide de Dieu, la main tendue de Dieu est un dû, c'est quand même une nécessité, c'est quand même moi. Je vaux la peine, je ne suis pas n'importe qui. Je caricature un peu, mais il y a de cela. Profondément, c'est pas en termes psychologiques que ça se pose, c'est au niveau de l'âme. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'âme, quand on y réfléchit, on n'y réfléchit pas assez souvent, pas assez profondément. Mais on considère comme normal que Dieu vienne nous proposer le salut. Or, les saints avaient cette merveilleuse sensibilité parce qu'ils avaient été profonds dans leur cœur, à l'écoute de leur cœur, et ils avaient compris toute la gratuité de l'offre qui leur était faite. Gratuité de l'offre du salut. C'était Parce que aucun homme ne peut réaliser cette guérison de l'âme. Aucun homme ne peut nous tirer de l'impasse où nous sommes. Nous sommes inclinés vers nous-mêmes, vers l'amour de nous-mêmes, qui nous détourne de Dieu. Nous ne pouvons plus ouvrir la porte du royaume des cieux. Nous n'en avons pas la force. On pourra dire les enfants sont beaux, ils sont magnifiques, et c'est vrai. Mais les créatures innocentes en notre monde sont belles, mais elles n'ont pas la force d'ouvrir la porte du royaume des cieux. Ça ne suffit pas. C'est quelque chose de très mystérieux. Et cette ouverture, cette porte qui s'ouvre, c'est Jésus qui l'a ouverte. Hein, vous verrez au-dessus du Fils de l'homme les cieux ouverts, avec les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est Jésus qui vient ouvrir les portes du ciel. Et ça, c'est une gratuité inimaginable. Dieu seul pouvait venir le faire en personne. Et ça, il y a quelque chose là qu'il nous faut saisir. C'est une grande méditation que la gratuité nous invite à faire sur la gratuité de la justification. Rien dans l'homme, voyez, ne justifie cela. Il y a, bien sûr, des beautés dans l'homme. Il n'y a pas que des choses qui sont la proie du péché, du mal. Mais ça demeure des vestiges, en quelque sorte, tant que ça n'a pas une ouverture vers Dieu. Il y a des gens qui sont formidables, qui ont des qualités très belles, qui font de belles choses dans le monde, mais qui, en définitive, ça s'arrêtera avec eux. Ça s'arrêtera avec leur mort et ça n'aura pas de pérennité. Ça durera ce qu'a duré leur existence. Dieu seul peut donner de l'éternité, eh bien, à ces actes-là. Mais pour ça, il faut la lui offrir. Il faut lui offrir ses actes. Il faut lui offrir, eh bien, cette confiance qui est la nôtre et cette certitude que tout provient de lui, tout doit retourner vers lui. Lui seul peut donner ce progrès à l'humanité qui fait que les actes d'une personne, les actes bons, ou je dirais même la simple présence bonne. Il y a tant de présences qui sont mauvaises et nocives dans le monde, mais il y a ces présences bonnes, pacifiantes, des présences qui nous réconfortent, qui nous consolent, rien qu'en étant là. Eh bien, ces présences-là porteront du fruit grâce à Dieu. Sans Dieu, elles auront été ce qu'elles sont, mais elles n'auront pas le pouvoir de porter du fruit au-delà d'elles-mêmes. La gratuité de la vie éternelle, bien sûr. Ça, c'est une chose qui découle de ce que je viens de dire. C'est dans l'Apocalypse, à deux reprises dans l'Apocalypse. Voilà ce qui est dit. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. On revient à ce que je disais en introduction sur la vie. La vie, c'est vraiment quelque chose qui procède de Dieu. En lui était la vie, nous dit Saint Jean dans le prologue de son évangile. Et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, c'est fondamentalement ce qui nous éclaire au niveau de notre conscience la plus profonde, intelligence et affectivité mêlées, c'est de méditer le mystère de la vie. Mais qu'est-ce qui fait que le mystère de la vie a une telle puissance? Pour nous mouvoir, pour nous permettre de nous dépasser pour aller vers Dieu, c'est justement c'est sa qualité intrinsèque. Et cette qualité intrinsèque, c'est non seulement la domination sur la vie, ça c'est la souveraineté divine, mais c'est la gratuité du don qui nous est fait. Vraiment, avant d'être créé, forcément, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas. Et donc, aucun mérite antérieur ne procède de l'acte de la création, du don de la vie, du partage de la vie. Et Dieu veut aller plus loin que la vie temporaire qui nous est proposée sur la terre. Il veut nous accorder la vie éternelle. Et pas seulement pour les bons, il l'accorde à tous. C'est ça qui est incroyable de la part de Dieu. Dieu peut accepter dans la vie éternelle, eh bien, qu'il y ait des opposants. Qu'il y ait des gens qui le refusent, c'est le sens de cette grande méditation de l'Apocalypse sur le combat entre la lumière et les ténèbres. Il y a parmi les anges et donc parmi les hommes aussi, eh bien, des créatures qui préfèrent librement, eh bien, vivre pour elles-mêmes, dans l'amour d'elles-mêmes, dans l'adoration d'elles-mêmes en quelque sorte, de leurs œuvres qui ne veulent pas accepter la souveraineté divine. Et Dieu accepte cela. C'est quand même incroyable la gratuité de Dieu. Je sais pas, nous, si on, quand on invente des créatures, des robots, c'est pour être obéi, c'est pour obtenir une obéissance totale et aveugle. Il n'y a pas de gratuité dans ce type de création. La création de Dieu, elle n'est pas du tout de cet ordre-là. On défigure le Seigneur parce qu'on ne pense pas à la gratuité, justement, qui préside à sa psychologie, si j'ose dire. Donc, la vie éternelle. La vie éternelle, la condition, c'est de la lui demander. Elle nous est tendue, mais il faut savoir la demander, donc il faut être humble. On verra justement que l'humilité, c'est une des vertus essentielles qui rime avec la gratuité. Enfin, il y a un type de gratuité que le Nouveau Testament nous développe. Elle est d'un autre ordre, celle-là. C'est la gratuité démoniaque, celle que je viens un petit peu de découvrir avec vous maintenant. C'est Saint Jean qui nous en parle, qui le met dans la bouche de Jésus au moment de la dernière scène, juste avant la Passion. Voilà ce que déclare le Seigneur à propos des Juifs. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï d'Oran. Ils m'ont haï sans raison. Ils m'ont haï sans motif. Ils m'ont haï gratuitement. Vous voyez que le terme gratuit, là, non seulement rime avec liberté, mais va plus loin. C'est-à-dire, c'est la haine, le refus de l'amour, donc, le refus de celui qui incarne l'amour, qui est l'amour en lui-même, qui est la source de l'amour, comme il est la source de la vie. Eh bien, la haine n'a pas de support. Elle ne peut pas s'appuyer sur quelque chose qui la précède pour se justifier. Le refus du Christ, le refus de la rédemption, le refus de Dieu, tout simplement, n'a pas de présupposé qui permette de justifier ce refus. On est dans une gratuité, mais une gratuité totalement négative. C'est la gratuité démoniaque. Elle est fondée, elle rime totalement avec la liberté. Et elle rime aussi, malheureusement, avec irrationalité. Parce qu'aucune raison ne peut rendre compte de cette haine sans raison. Pour elle prendre, c'est ce que Jésus fait à plusieurs reprises à travers l'Évangile. Il interpelle ses auditoires où il fait méditer les disciples sur la réaction des Juifs en général, des opposants. Vous voyez, malgré toutes les choses bonnes que j'ai faites au milieu de vous, vous continuez à me considérer comme un démoniaque, un possédé du démon. Vous voulez me tuer malgré le fait que je ne convoite pas le pouvoir, malgré le fait que je ne demande pas d'argent, je ne voue pas un culte à l'argent, que je soigne gratuitement pour le coup, que j'apaise, je fais toutes sortes de miséricordes, que j'approfondis les Écritures, bref, que je suis Jésus-Christ, l'amour incarné. Eh bien, nonobstant cela, nonobstant mon désintéressement, ma gratuité fondamentale par rapport aux choses de la terre, aux œuvres de la terre, au pouvoir des souverains de la terre, au pouvoir religieux, que je ne vous conteste même pas, eh bien, vous m'avez haï sans raison, sans motif. Il y a quelque chose. Les Romains, qui étaient complètement indifférents à l'identité du Christ, à sa mission religieuse, les Romains ont quand même crucifié Jésus. C'est gratuitement. C'est le mystère de la révolte angélique est un mystère de gratuité, mais de l'anti-gratuité évangélique. Donc voilà le thème de la gratuité pris à partir du lexique qui le porte. Ça nous donne, voilà les thèmes, les directions qui s'ouvrent lorsqu'on scrute le thème à partir du mot « d'Oran ». La gratuité dans le monde moderne. Aujourd'hui, cette gratuité évangélique que nous avons évoquée, qui est vraiment qui est un reflet de la pure nature de Dieu, eh bien, comment est-ce que ça se traduit dans le monde d'aujourd'hui? Ça se traduit d'abord dans l'économie. Ça, c'est alors là, c'est quand même une belle. L'Église a déjà, avant Benoît XVI, avait proposé avec Jean-Paul II, avec Jean XXIII, des documents qui étaient très forts sur la doctrine sociale de l'Église. Mais Benoît XVI a ajouté quelque chose qui est très, qui est vraiment incroyable, c'est la gratuité. Je vous cite deux extraits de lui, dans son document, dans sa lettre encyclique Caritas in Veritate. La cité de l'homme n'est pas uniquement constituée par des rapports de droits et de devoirs, mais plus encore et d'abord par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion. L'homme, c'est pas seulement, je dirais, il faut pas le prendre seulement techniquement, dans la mesure où il anime la société, dans la mesure où il en est l'instrument et en même temps le bénéficiaire, c'est-à-dire le consommateur, concrètement, et le constructeur aussi. Non, il y a quelque chose d'autre. C'est pas seulement un technicien, l'homme. Vous voyez, le monde moderne conçoit l'homme, nous autres les hommes, comme des techniciens, des gens utiles, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, Benoît XVI rappelle, avec un peu de provocation, mais c'est bien, eh bien que même dans les rapports économiques, que d'abord l'identité de l'homme, c'est la gratuité. Et puis que maintenant, je vous lis une autre phrase où il l'introduit carrément dans les rapports économiques. La gratuité est présente dans la vie sous de multiples formes qui souvent ne sont pas reconnues en raison d'une vision de l'existence purement productiviste et utilitariste. L'être humain est fait pour le don. C'est le don qui exprime et réalise sa dimension de transcendance. Donc là, il invoque la nécessité, même dans l'économie, de faire une place, d'abord de concevoir l'idée de gratuité, qui est une caractéristique de l'homme. Et donc, l'homme, c'est pas seulement une bête à consommer ou à travailler et à produire, c'est aussi celui qui dépasse, qui transcende le monde économique. Le monde économique devrait, en tout cas selon la vision chrétienne, doit être ordonné à l'homme et pas l'homme ordonné au monde économique, comme le monde athée le vit concrètement et l'impose dans le monde entier. On est des rouages, trop souvent, les rouages d'une société, la société libérale, qui servent l'économie. Mais l'homme, c'est pas ça. L'économie, c'est bien, ça peut être. C'est pas le principe de faire du bénéfice qui est remis en cause par l'Église. Ce qui est remis en cause par l'Église est beaucoup plus fondamental, c'est la transcendance de l'homme. C'est que cette économie, elle n'est pas la finalité de l'activité de l'homme. Cette économie, elle est elle-même, elle doit prendre l'homme comme finalité. Elle doit être transcendée, et c'est l'homme qui doit transcender l'économie et tout l'agir de l'homme en ce monde, en général, même au niveau politique évidemment, au niveau culturel, au niveau scientifique. Donc voilà, c'est très beau d'introduire la gratuité. Là, c'est vraiment le propre de Benoît XVI de parler de gratuité à propos de la gestion du monde et de l'organisation du monde, puisque maintenant le monde. Avec la crise du marxisme quand même, et on voit la Chine là, qui, en tant que régime marxiste, devient capitaliste, libéral en tout cas, s'y accommode bien, eh bien, ça prend vraiment, ça devient ce que Saint Jean nous avait annoncé dans l'Apocalypse, ça devient un petit peu cette Babylone, cette cité commerçante, vous voyez, c'est très beau l'intuition de Saint Jean au premier siècle de notre ère. Il imagine la cité de la fin des temps, enfin il ne l'imagine pas, il la reçoit en vision. En révélation, la cité des derniers temps, la cité immanente, hein, celle du dragon, que le dragon veut mettre en face de Dieu, en face de la cité de Dieu, eh bien comme une cité commerçante d'une part, et qui n'est pas une ville ni un empire, comme spontanément à cette époque on aurait pensé. On aurait incarné cette cité sous la forme d'un empire, l'empire romain par exemple. Non, Saint Jean lui a pensé à l'avance une idée très moderne qui est la nôtre. Un réseau qui unit les nations et les cultures entre elles. Une culture, quoi, qui unit toutes les nations et leur richesse et leur pouvoir entre eux. C'est incroyable, l'Apocalypse, c'est vraiment un texte inimaginablement prophétique. Et dans cette cité où la gratuité n'existe pas, Babylone, c'est vraiment le symbole, la cité commerciale, nul ne pourra acheter ni vendre, nous dit Saint Jean, s'il ne porte sur la main ou sur le front. Eh bien, la marque, le chiffre de la bête, le chiffre de son nom. C'est-à-dire qu'il faut passer par la manière de penser totalement immanentiste de Babylone pour pouvoir bénéficier de ses bienfaits. Donc, au niveau de l'intelligence, le front, au niveau de la main, c'est des actes. Donc, tout est pris dans cette mentalité-là. Et Saint Jean nous dit, bien, en face, il y a les élus avec cette belle gratuité qu'ils nous montrent. C'est très beau de voir les élus qui sont décrits dans l'Apocalypse selon quatre qualités et qui évoquent vraiment déjà en eux-mêmes l'idée de gratuité. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont vierges, nous dit le texte. Ils sont irréprochables. Ils sont les prémices que Dieu, les prémices d'entre les hommes, que Dieu a racheté les premiers, justement, comme modèle, comme exemple pour de la vie future. Ils vivent dans ce monde, en dehors de Babylone, vous voyez, donc cette cité qui régit toutes les relations commerciales et toutes les relations humaines en général, culturelles, etc., et sur l'hédonisme, eh bien, eux sont en dehors. Ils ont cette liberté de vivre en dehors de Babylone. Ils vivent au désert, comme la femme est emportée au désert, loin du dragon et de sa puissance et de sa fureur. Ce désert, ce n'est pas un désert matériel, c'est un désert au niveau spirituel. C'est la gratuité qui est l'atmosphère qu'on respire dans ce désert-là, quoi. C'est une autre mentalité, la mentalité du royaume des cieux. Toute l'Apocalypse est vraiment très riche sous cet angle-là. C'est une société qui est basée sur, toujours pour relever le caractère très moderne de Babylone, de l'anti-gratuité. C'est basé, vous voyez, pour être très œcuménique au niveau des valeurs, Saint Jean nous dit, c'est basé sur l'hédonisme. Rien de plus œcuménique que l'hédonisme. Ah non, mes frères, jouissons, mangeons, buvons, carpe diem, quoi, et profitons du bonheur qui passe, mais un bonheur terrestre. Ah, il faut combler tous vos appétits. Babylone va combler tous vos appétits à condition qu'ils soient de ce monde. Babylone ne pourra pas combler le manque de Dieu, ne comblera pas le manque de transcendance. Au contraire, Babylone va gommer l'idée de transcendance. Elle se propose elle-même comme la transcendance de l'humanité. Elle veut, c'est le programme du dragon, elle est la cité du dragon. Elle veut établir, elle veut être l'incarnation même du paradis, mais non pas en haut, non pas du côté de Dieu, l'incarnation du paradis sur la terre. Et curieusement, à partir de là, pour vivre le bonheur parfait ici-bas, pour incarner, pour construire, car les hommes doivent construire Babylone, eh bien pour construire le paradis terrestre, afin de ne plus vivre sous la souveraineté de Dieu, eh bien il faut lâcher la gratuité. C'est curieux ça. On ne peut plus, quand on cultive l'idée, ce que pour les chrétiens, l'idolâtrie du paradis terrestre sans Dieu, basé sur toutes les joies de la terre, eh bien, on est obligé d'abandonner la gratuité. On est obligé d'entrer dans un système qui est le contraire de la gratuité. Et alors, de Babylone, cité commerçante, eh bien justement, dérive, tout dérive de là. Il y a une impossibilité entre le thème de la gratuité et le thème du paradis terrestre. En revanche, c'est Benoît XVI là, qui achevait sa phrase, la dernière que j'ai lue, il l'achève sur la transcendance. La gratuité ouvre forcément à la transcendance. Donc au contraire de ce qu'est Babylone. Et c'est très beau. Moi, je trouve que Babylone, c'est une bonne préfiguration de la modernité. Parce que ça ne veut pas dire que la modernité ne peut pas être convertie, améliorée. Benoît XVI le pense et il a bien raison. Mais il faut qu'elle le soit. Sinon, en se durcissant, elle deviendra ce prototype, vous voyez, que Jean nous montre, cet archétype de la cité fermée sur elle-même qu'est Babylone. Eh bien, la gratuité ouvre à la transcendance. En introduisant la gratuité dans l'entreprise, de manière très concrète. Donc, c'est quoi dans l'Église ou dans le monde? Ça doit être le bénévolat, par exemple. Il y a une part, on ne doit pas tout faire payer, on ne doit pas tout évaluer en fonction de l'euro, du dollar ou de je ne sais quelle devise. Tout ne doit pas être évalué d'un point de vue matériel. Il faut que des espaces échappent, eh bien, à ce commerce, à ce donnant-donnant. Donc c'est le thème de la gratuité qui ouvre à la transcendance. Ça, c'est quelque chose de très très important. On en arrive maintenant justement, eh bien, à l'amour lui-même. L'amour, la question de l'amour, qu'est-ce qui est gratuit dans l'amour et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui va, comment la gratuité de Dieu, donc de l'amour divin, l'agapé, vient-il ouvrir le cœur de l'homme à la véritable transcendance? Voyez, dans le monde grec, avant de connaître Jésus-Christ, avant de connaître la culture chrétienne, on concevait l'amour, donc l'éros fondamentalement, comme étant un amour intéressé. Voyez, selon les Grecs anciens, on aime pour un mieux, on aime pour un plus. C'est l'amour est un mouvement qui part de l'inférieur pour aller vers le supérieur. C'est le même, de même la recherche de la sagesse, qui est une noble recherche, hein, demeure elle aussi sous le signe d'un manque ou d'une déficience. C'est parce que je manque de sagesse que je la recherche. Et ça aussi, c'est, vous voyez, l'amour est un mouvement, hein, donc la quête de la sagesse est aussi l'amour de la sagesse. Pour les Grecs, Dieu, ainsi, selon leur propre définition, leur limitation de la conception de l'amour, eh bien, ne pouvait pas aimer, parce que Dieu est parfait. Dieu n'a pas besoin d'être enrichi par une autre créature, il n'a pas à tendre vers un bien qui lui manquerait ou qui serait extérieur à lui, différent de lui. Non, tout est en Dieu. Donc, selon l'amour purement humain, et les Grecs avaient bien mesuré ce qu'est l'amour, eh bien, on ne peut pas, Dieu ne pourrait pas aimer. Mais ça, voilà, on en arrive à la question fondamentale maintenant, et qui correspond à la révélation du christianisme. L'amour, c'est aussi, est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Et pour entrer dans la plénitude de l'amour, en quelque sorte, vous voyez, l'amour humain, c'est ce qui a échappé au péché originel. Au péché originel, bon, après qu'Adam et Ève aient désobéi, qu'ils aient finalement aimé, ils se sont aimés eux-mêmes plus que Dieu, quoi, c'est leur péché. Ils n'ont pas été condamnés. Enfin, ils ont été, bien sûr, ils ont eu les conséquences, mais ils n'ont pas été envoyés aux enfers. Il y a une possibilité de rédemption, nous le savons bien, et du péché originel, l'amour humain est ressorti certes blessé, mais il est toujours un amour. Je résumerai les choses donc ainsi. Il y a dans l'amour humain, eh bien, quelque chose de vrai, mais en même temps, il est frappé d'un manque, d'une blessure. Il doit passer de l'éros à l'agapé, en quelque sorte. L'éros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'entendaient les Grecs en disant que c'est un manque qui doit être rempli? C'est un amour forcément intéressé. Plus exactement, je préfère parler de l'éros en termes de complémentarité. Nous sommes des créatures qui sont toutes incomplètes. On ne peut pas trouver en nous-mêmes la plénitude. On a besoin d'être complété par un ou une autre. Dans l'amour humain, dans l'amour conjugal par excellence, eh bien, c'est l'autre, parce qu'il est dans sa différence, mais vient nous compléter. Il est, elle est, celui, celle qui va m'apporter ce qui me manque. Et cette alliance est réciproque, c'est un intérêt réciproque, il y a un donnant-donnant dans l'amour humain qui construit, qui nourrit le cœur de chacun. Donc c'est ça que les Grecs voulaient dire lorsqu'ils disaient que l'amour est intéressé. Ben oui, j'aime l'autre parce qu'il va me compléter. Mais attention, l'amour, là, peut choisir entre l'égoïsme ou bien la gratuité, justement. Et quand il commence à choisir la gratuité, ben, il commence à grandir et à se purifier. L'agapé, en revanche, il vient de Dieu, c'est l'amour divin, et lui ne nous aime pas parce qu'il aurait besoin d'être complété par nous. Non, non, c'est pas un amour qui a besoin de complément, l'agapé. C'est un amour complètement gratuit. Et c'est vrai que lorsque nous faisons la comparaison entre l'amour humain et puis qui déjà procède de Dieu, et l'amour divin, l'agapé, à l'état pur, eh bien, il y a vraiment un saut qualitatif inimaginable qui s'opère. Et on a bien du mal à le comprendre. C'est l'amour gratuit. Là, on entre avec l'agapé dans l'univers de la gratuité de Dieu, dans sa nature. Et donc, Dieu n'attend pas, ce qu'il attend de ma part, c'est un amour, mais il n'attend pas la preuve de mon amour, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'amour même qui l'attend et rien d'autre. Il n'a pas besoin que je produise des œuvres, il n'a pas besoin que je produise quoi que ce soit. D'abord, je ne pourrais rien produire pour lui manifester, pour lui répondre comme il convient. L'amour divin, c'est la liberté souveraine de Dieu. Dieu est maître de ses dons, il n'a aucune obligation envers les hommes. Le monde n'est pas une production nécessaire, vous voyez, c'est ça, on assume tout là. Il n'y a ni passé ni avenir qui déterminerait Dieu à agir, qui finaliserait sa volonté dans son amour. Il n'y a pas un plan inscrit dans la structure primitive du monde ou des êtres qui l'obligerait à aimer. Non, vraiment, l'amour de Dieu est complètement gratuit. Saint Jean nous dit dans son épître, Dieu nous a aimés le premier. Donc, on peut dire que vraiment, la gratuité, c'est l'essence même de l'amour. Pour finir, j'aimerais parler de deux aspects encore de la gratuité. La gratuité de l'amour de Dieu selon les deux commandements. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Alors, dans le premier commandement, l'amour de Dieu, c'est-à-dire, on parle de la sainteté, là, en quelque sorte. L'amour divin doit se purifier, enfin, l'amour humain, pardon, doit se purifier jusqu'à aimer Dieu. Non pas, nous disent les saints, nous dit Jean de la Croix, à cause de ses propres dons. Au départ, c'est comme ça. C'est vrai que Dieu nous séduit eh bien, en nous comblant de tas de dons divers, de guérisons, que sais-je, d'émerveillement intellectuel, existentiel. Il nous redonne la confiance, l'espérance, la foi, la force, de l'enthousiasme, de la joie. Enfin, ça, c'est des dons. Eh bien, les saints nous disent, la sainteté véritable, l'amour pur, l'amour vrai, va au-delà des dons. Il ne faut pas aimer Dieu pour ses dons, il faut vraiment l'aimer pour lui-même. Même s'il ne donnait rien, et c'était si vous vivez la nuit obscure, nous dit Saint Jean de la Croix, si vous n'avez plus le sentiment de la présence sensible de Dieu, la présence consolante de Dieu, de ses dons consolants, réconfortants, eh bien aimez-le encore davantage, aimez-le toujours avec la même ardeur, parce qu'il est vraiment digne d'être aimé en lui-même, pour lui-même, gratuitement. Et là, vous entrerez dans la gratuité. Là, vous pourrez aimer enfin gratuitement, vous pourrez dire que vous avez aimé gratuitement, et non pas pour obtenir telle ou telle chose, et non pas pour vous complaire dans tel ou tel don, même si c'est le meilleur. Donc déjà, par rapport à l'amour de Dieu, la gratuité est placée comme vraiment l'objectif ultime à atteindre. Au ciel, eh bien, nous réussirons tous à aimer Dieu gratuitement. Nous serons certes comblés de dons, mais nous aimerons Dieu gratuitement. En cette terre, comme nous avons du mal, nous qui sommes, qui vivons de l'amour éros, de l'amour qui doit être complété, qui réclame un complément, comme nous avons du mal à aimer Dieu gratuitement selon l'agapé. Donc, allons vers cette perspective. Sachons que c'est la perspective vers laquelle Dieu nous demande d'avancer. Parce que l'essence même de l'amour, c'est la gratuité. Et qu'il n'y a pas de plus grand amour, finalement, Jésus disait que de donner sa vie pour ses amis, là, oui, une autre manière de le dire, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer gratuitement sans rien attendre en retour. C'est ce qu'a fait Jésus. Dans le second commandement, maintenant, il y a deux caractéristiques, mais on peut dire tout de suite, et même achevons directement là-dessus, que l'amour parfait du prochain, eh bien, se comprend selon la clé de la gratuité, là encore. Deux passages, on les trouve de l'amour fraternel, on trouve ça, c'est chez Matthieu. Il faut aimer jusqu'à ses ennemis, nous dit-il. C'est ça la gratuité dans l'ordre de l'amour fraternel. L'amour fraternel, quand il est parfait, donc il est gratuit, et voilà ce qui est la description que nous en fait Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Vous voyez la gratuité. Le donnant-donnant, là, qui est dénoncé par Jésus, les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Donc les publicains, c'est justement ceux, les financiers, quoi. Ceux qui s'occupent de l'argent, du donnant-donnant. Jésus leur dit non, Pour échapper, pour arriver à la perfection de l'amour du prochain, il faut entrer dans la gratuité. C'est une chose totalement nécessaire. Une autre formulation, on la trouve chez Saint Luc à propos, eh bien elle est plus générale, c'est le bon samaritain. Le bon samaritain, qui est mon prochain? Hein, c'était la question qui était posée à Jésus. Jésus, eh bien, formule la parabole, la magnifique parabole du bon samaritain. C'est celui qui accueille celui qui est blessé au bord du chemin, qui le soigne gratuitement, qui donne même de son bien pour ça, pour lui, sans rien attendre en retour de lui, puisque cet homme, par définition, n'a plus rien. Alors, voilà l'amour parfait. Les deux commandements vécus à la lumière, on s'en rend compte que ces deux commandements doivent être éclairés par la gratuité pour atteindre leur plein épanouissement dans nos cœurs, dans nos âmes. Alors, orientons-nous vers le mystère de la gratuité, c'est le thème de votre mouvement là, au niveau national, c'est un thème magnifique, c'est celui de la sainteté, c'est celui de la liberté, c'est celui de la force aussi. Hein. La gratuité, vous voyez, il y a deux âges humains, deux âges de l'homme qui sont vraiment à la lumière de la gratuité, en fait tous devraient l'être, mais naturellement au niveau anthropologique c'est l'enfance et c'est la vieillesse. L'enfance, bah oui, parce qu'on est gratuit, on découvre tout, et on donne tout d'une manière très spontanée, très entière, dans un échange d'amour et de cœur. On conçoit mal, l'enfant conçoit mal que les relations, ce ne soit pas un échange de cœur. Il faut être un adulte pour concevoir des relations sans cœur. L'enfant, lui, ne le conçoit pas. De même, après, ben, au milieu, donc il y a la vie active. Alors ça, c'est l'âge intéressé par excellence, parce qu'on doit réussir, on doit faire des choses, on doit gérer des choses, etc. Mais vient, la nature a mis ce que nous un déclin physiologique, c'est vrai, mais qui est en réalité une apothéose, qui devrait être l'occasion d'une apothéose sous l'angle spirituel, c'est la vieillesse, le troisième âge, l'âge de la sagesse. C'est l'âge où on redevient gratuit. Psychologiquement, d'ailleurs, on redevient un peu comme des enfants. Mais c'est spirituellement que c'est plus intéressant. On redécouvre ce qui est la valeur spirituelle de l'enfance, on redécouvre la gratuité, on est appelé à la redécouvrir. Alors vraiment, n'hésitez pas, entrez dans ce sillage et pour la recevoir, c'est un don gratuit de Dieu, c'est à Dieu, à Jésus qu'il faut la demander.